All right, good morning.
Bonjour à tout le monde.
Today you finish the book of Galatians.
Aujourd'hui, vous allez finir le livre de Galates.
Six chapters and six classes.
Six chapitres en six cours.
So we talk pretty fast.
Ils ont été assez rapides.
I'll just go over a brief overview of what we've covered, just to remind everybody.
On va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu pour rappeler à tout le monde.
If you guys remember in chapter 1, we looked at Paul's defense biographically of his apostleship, and it goes through a lot of the same events that had taken place in the book of Acts.
Dans le chapitre 1, Paul fait sa défense, Paul se présente un petit peu sa biographie pour défendre son autorité en tant qu'apôtre, et ça reprend pas mal de choses qui sont mentionnées dans le livre des Actes.
And we saw then how that biographical defense goes through chapter 2 and leads into his defense of the gospel starting in chapter 2 verse 14.
Et cette biographie continue dans le chapitre 2 de Galates. Avant jusqu'au verset 14 où il commence ensuite à défendre l'évangile.
And then we looked at 11 arguments for justification by faith.
Ensuite, on a regardé ces 11 arguments pour la justification par la foi.
And I hope that in the future you guys will grow in your understanding of those arguments, as well as I hope that those arguments start to take root in your life.
Jordan espère que nous tous on grandisse dans notre compréhension de ces arguments et que ces choses-là prennent racine dans nos vies.
You guys might remember that first Paul began with his own, along with all the Jews' understanding of the true gospel.
Paul a commencé avec la compréhension qu'avaient les Juifs de l'Évangile.
And how sometimes we can act differently than actually what we believe.
Et le fait que des fois on se comporte différemment de ce qu'on croit.
And then we looked at Christ and his ministry and actually what his goal and intentions were in chapter 2 verse 17.
Et ensuite, chapitre 2 verset 17, on avait vu le vrai ministère de Jésus, ce qu'étaient vraiment ses intentions et le pourquoi de sa venue et de sa mort et résurrection.
And then the third argument in chapter 2, verse 21, talks about how far exactly does Christ's atonement extend? Does it go for your entire life, or does it go for just part of your life?
Et ensuite, on avait vu verset 21 du chapitre 2, la portée de l'expiation de Jésus, voir que le sacrifice de Jésus couvre toute la vie, a vraiment une étendue qui couvre toute la vie.
And then, remember then, Paul also uses the Galatians' own history and their own biography to ask them, you know, what did you experience at the beginning in the first five verses of chapter 3?
Et ensuite, Paul interpelle les Galates et leur rappelle leur propre expérience spirituelle, comment ils sont venus à Jésus au début.
And then, remember, we have Abraham and how it's always been by faith, it will always be by faith.
Ensuite, on a parlé d'Abraham et du fait qu'en fait, même dans l'Ancien Testament, c'était déjà une question de foi et que ça va toujours être une question de foi pour avoir une relation avec Dieu.
And then we saw how, in fact, if you seek after proving yourself to God through works, it actually makes you feel guilty and condemned and places you under a curse.
Ensuite, on avait vu que si on essaie de se justifier vis-à-vis de Dieu par nos propres œuvres, par notre propre travail, ça nous donne en fait un sentiment de culpabilité, de honte, et ça nous met en fait sous une malédiction.
And then we saw in verse 13 of chapter 3 how Christ was our substitution for what the law produced in us.
On avait ensuite vu que Jésus-Christ avait pris notre place pour prendre l'effet, ce que la loi et le péché avaient produit sur lui-même, à notre place.
And then, the last two arguments sum up how, you know, as Christ is our substitute, that is actually a fulfillment of God's promise, and nothing can take away or add to that promise ever.
Et ensuite, on avait vu la promesse et le fait que c'était quelque chose que Dieu avait annoncé d'avance. Et on ne peut pas enlever ou rajouter ou changer de choses à la promesse de Dieu.
And then the last argument was about what does the law actually do for us? What is its purpose? And we looked at how it shows us our sin, how it convicts those who break it of sin, and then how it leads us to be sons of God.
Et ensuite, on avait vu le vrai travail ou le vrai objectif de la loi, le fait que ça nous montre ce qu'est le péché, ça nous convainc de péché pour nous conduire en fait à Dieu, pour que nous nous en remettions à Dieu pour notre salut.
And then we got into the application of the gospel. And the first part was the legal application, starting in chapter 3, verse 26, through chapter 4, verse 31.
Ensuite, on avait vu la première partie de l'application de l'évangile dans nos vies avec une idée de statut légal que nous obtenons. Et c'est ce qu'on avait vu du chapitre 3, verset 26, au chapitre 4, verset 31.
And now we're at the practical application.
Et maintenant, on est dans les applications concrètes, pratiques.
Starting in chapter 5 and then finishing out through chapter 6.
Dans le chapitre 5 et jusqu'à la fin du chapitre 6.
So, we left off the fruit of the Spirit.
On était en train de regarder les fruits de l'Esprit quand
and
on s'est arrêté mardi.
We were talking about the contrast between fruit and works.
On avait parlé du contraste qu'il y a, la différence qu'il y a entre le travail et le fruit.
And we talked about how fruit is natural versus works take effort.
Et on avait parlé du fait que le fruit c'est quelque chose de naturel alors que le travail ou les œuvres c'est quelque chose où il faut un effort, il faut travailler forcé.
And how the Spirit produces fruit in us and how we don't have to produce that fruit but the Spirit produces that fruit as we persevere in Him.
Et on avait parlé du fait que l'Esprit est celui qui doit produire les fruits en nous quand nous le laissons diriger nos vies.
And we also looked at how if you're not bearing fruit, that you're unnormal, that every Christian bears fruit, that's a normal thing that a Christian would do.
On avait dit que pour tous les chrétiens, c'était quelque chose de normal de porter des fruits et que si on ne portait pas de fruits, il y avait quelque chose qui n'allait pas.
And then the last point we made about fruit is how fruit is for other people besides the person bearing fruit.
Et ensuite, on avait parlé du fait que les fruits, c'est toujours pour quelqu'un d'autre que celui qui porte le fruit.
How works are done because of our own selfish desires, but fruit is born so that other people can enjoy it.
Le travail, c'est quelque chose qu'on fait en général pour nous-mêmes, avec nos propres motivations égoïstes, alors que le fruit, c'est quelque chose qui est produit naturellement en nous et dont les gens autour de nous profitent.
And we looked at the first two fruits of the Spirit.
On avait regardé les deux premiers fruits de l'Esprit.
We looked at love.
L'amour.
And we looked at joy.
Et la joie.
And we did get into a little bit of the other ones, but we'll start with peace today.
Aujourd'hui, on va commencer avec la paix.
And just before we get there, I do want to give a slight background on love and joy for those of you who missed.
On va revenir brièvement sur l'amour et la joie pour ceux qui n'avaient pas pu être là.
And love, the Christian love talked about here.
L'amour dont il est question ici
is quite a bit different than a worldly love.
Est très différent de l'amour qui est montré dans le monde autour de nous.
We find that we love or enjoy or are affectionate towards people or things that hold our attention, that interest us, that are beautiful to us.
En général, dans le monde autour de nous, on voit un amour qui se porte vers des gens ou des choses qui sont dignes d'amour, qui sont agréables, qui sont belles.
But how God's love is motivated not by the appeal of someone or something, but it's motivated by an internal being of being a loving person.
Mais l'amour de Dieu c'est pas un amour qui est motivé par le plaisir que ça peut procurer à la personne qui va aimer, mais c'est quelque chose qui est le résultat ou le fruit du caractère de la personne qui aime.
So we see that as God is a loving God, he shows us love not because we deserve love, but because he is loving.
Et donc Dieu nous aime non pas parce que nous méritons de l'amour ou parce que nous sommes dignes de son amour, mais parce que lui est un Dieu qui aime.
But this love is not just a simple objective, you know, I'm going to do what's best for you even though I don't feel like it.
C'est pas un amour. It isn't.
It's not only that.
C'est pas seulement un amour qui dit je vais faire ce qu'il y a de mieux pour toi, que tu le veuilles ou non.
But this is actually a strong burning affection even though the person might be unlovely.
C'est une passion, un feu très fort, un désir très fort qui se porte sur la personne même si elle n'est pas vraiment aimable ou même si c'est pas une personne facile à aimer.
And what I mean by that is not that God felt, because he was constrained because of his love, he felt like, oh gosh, I gotta go die on the cross for these sinners.
Et ce que veut dire Jordan, c'est que Dieu, quand il a pensé envoyer Jésus, il n'était pas en train de se dire « Ah zut, je suis obligé parce que je suis un Dieu qui aime, il faut que j'aille mourir pour ces pécheurs. »
But God's loving nature drove him to that state because he wanted to, he chose to.
Mais qu'en fait, il avait vraiment envie de le faire, il avait vraiment le désir de le faire et c'est ce qui l'a poussé à prendre cette décision.
And this form of love reflects the most personal choice, but it also reflects a deep longing and affection for the person you're showing love towards.
Et cet amour montre une vraie attention, un vrai désir qui se porte sur la personne qu'on aime.
So we see that it is a sacrificial love. And so is not self-seeking or concerned with selfish ambitions.
Et c'est un amour qui est prêt, qui est porté vers le sacrifice, qui est pas motivé par le gain que la personne qui aime va avoir par un égocentrisme, mais qui est vraiment porté sur la personne aimée.
And so we see the example in Jesus. In fact, John says, we love because he first loved us.
L'évangile de Jean nous dit que nous l'avons aimé parce que lui nous a aimé en premier.
That just like God has sacrificially chosen to lay down his life for us, we're to do that for others.
Et nous, suite à notre relation avec Dieu et à cause de son amour, lui nous demande d'essayer d'aimer les autres de la même manière, avec cette même idée de sacrifice.
And in fact, 1 John makes it very clear that if we don't have this same love of God for our brothers and sisters in the church, that we should examine closely our own salvation.
Et 1 Jean nous dit que si nous n'avons pas cet amour pour les gens dans l'Église, dans le corps de Christ, alors il faut que nous nous examinions nous-mêmes.
And then we concluded by looking at joy.
Ensuite, on avait regardé la joie.
And we talked about how this is a popular theme in the New Testament.
Et on a dit que c'était un thème qui revenait très souvent dans le Nouveau Testament.
And we looked at how this joy is uncircumstantial happiness.
Et que c'était un bonheur ou une joie qui ne dépend pas des circonstances.
That while we might know of difficulty or trial, we can still count it joy because of what God has done for us and of a true understanding of the future state of things.
Et que à cause de ce que nous savons à propos de Dieu, de notre relation avec Dieu et de notre compréhension de ce qui va arriver dans le futur, nous pouvons même considérer les épreuves ou les difficultés avec de la joie.
And we saw perfectly how Jesus pictured this for us because it says in Hebrews that for the joy set before him, he endured the cross.
Et on avait vu que Jésus a montré l'exemple par rapport à cette joie quand il est dit qu'il a considéré tout ça comme une joie à atteindre et qu'il a fait fi des épreuves et des difficultés qu'il allait devoir endurer sur la terre à cause de la joie qui était devant lui.
And so, one of the noticeable characteristics of a Christian should be their joy.
Et donc, une des caractéristiques des chrétiens devrait être leur joie.
And you can do a little homework. You can ask your roommate or your husband or your wife when you get home whether or not you're a joyful person.
Et vous pouvez faire en guise de devoir, vous pouvez demander à vos colocataires ou femmes ou époux si vous êtes quelqu'un de joyeux.
It's usually the best way to know who you are is to ask those who are closest to you.
La meilleure manière de savoir qui vous êtes, c'est de demander aux gens qui sont les plus proches de vous.
And if you're not joyful, well, God wants to bring us joy in work, in life, even in trials.
Et si vous n'êtes pas plein de joie, c'est le désir de Jésus de remplir nos vies de joie dans les épreuves, dans le travail, dans la vie de tous les jours.
All right, let's pray and we'll finish up these fruits of the Spirit.
Prions et on va finir de regarder ces fruits de l'Esprit.
Heavenly Father, we thank you for your word and that you have written these things so that we would remember always the sacrifice your son has made for us.
Père Céleste, merci pour ta parole et pour ces choses qui sont écrites pour que nous n'oublions pas le sacrifice de ton fils.
And as we look at these fruits of the Spirit, we ask that we would not only retain them in our minds, but that you would, through your Spirit, help us bear these fruits in our lives.
Et Seigneur, nous prions qu'en regardant ces fruits de l'Esprit, ce ne soit pas qu'une liste dont nous nous rappelions, mais que ce soit vraiment des choses qui se développent et qui prennent place dans nos vies.
Lord, forgive us for our sins and our allowing ourselves to be controlled and led by our flesh.
Père, pardonne nos péchés et le fait que nous nous laissons guider et contrôler par notre chair.
We want to be led by your Spirit.
Nous voulons être dirigés par ton esprit.
Lead us, we pray in Jesus' name.
Dirige-nous, nous prions.
Amen.
Amen.
All right, so let's look at peace.
Regardons la paix.
And you could define peace as right relations in every sphere of life.
Et on pourrait définir la paix comme des relations justes ou bonnes dans tous les domaines de la vie.
And we define peace now typically as the absence of war.
Aujourd'hui, on définit la paix comme l'absence de guerre.
But clearly, there is a certain portion of time after any war is completed where there is not true peace that's been resolved because there's still yet the rebuilding process.
Mais on peut voir que même après qu'une guerre soit finie, en général, il y a encore des problèmes, il y a encore un processus de reconstruction et de rétablissement de l'ordre.
And so we see here that biblical peace is not just the absence of conflict, but it is the presence of highest good.
Et donc la paix au sens biblique, c'est pas seulement l'absence de conflit, mais c'est la présence de ce qu'il y a de meilleur, on va dire, le meilleur état possible.
And in contrast, very stark contrast to the four words used to describe division and hatred towards our fellow man.
Et en regardant les mots qui sont utilisés en contraste avec l'idée de division ou de haine par rapport à aux autres hommes,
we see here that we are instructed, that we are commanded, and we are extolled to have this attitude both among friends.
Et donc on voit ici en contraste avec ces idées-là que on est encouragé, exhorté à avoir des relations différentes avec nos amis.
Whether at home with your family or with your roommates.
Avec nos familles, avec les gens avec qui on vit.
Or in the church.
Avec les gens qui sont dans l'église.
Or maybe between your fellow, you know, just human beings down the street.
Ou n'importe quel autre être humain, peut-être au bout de la rue.
We see that it's not satisfactory biblically to just have absence of conflict. We must have presence of highest good.
Et donc il y a cette idée que c'est pas seulement au sens biblique, c'est pas seulement l'absence de conflit qui suffit, mais c'est le fait qu'il y ait ce qu'il y a de mieux possible qui soit présent dans ces relations.
So, you know, statements like, well, we can exist in the same room.
Et donc des gens qui des phrases du genre, ben on peut exister dans la même pièce.
Or, I can't talk with that person, or I can't be in their presence.
Ou je peux pas être en présence de quelqu'un, ou j'arrive pas à parler avec cette personne.
I don't care if they're around, but we don't mesh.
Ça m'est égal s'ils sont là ou pas, mais on n'est pas vraiment compatible.
We see that those things are not supposed to be the status of our lives, but we're rather told to seek peace.
Et donc la Bible nous exhorte non pas à nous satisfaire de ce genre de choses, de ce genre de rapport avec les autres hommes, mais la Bible nous exhorte à rechercher la paix avec ces personnes.
So, and we see the best example of this through the work of Jesus.
Et encore une fois, on voit le meilleur exemple de cela en Jésus-Christ.
In Ephesians chapter 2, it makes it very clear that we were hateful in God's sight.
Dans Ephésiens chapitre 2, il est dit que nous étions Dieu pouvait justement avoir de la haine envers nous.
But that through Jesus Christ, he made his own son that hated person so that we would experience peace with God.
Mais par le sacrifice de Jésus, par son travail à la croix, il a rendu Jésus celui qui était digne de la haine divine pour que nous puissions bénéficier de la paix avec Dieu.
And the peace that we experience now with God is not God's toleration of us.
Et la paix dont nous bénéficions avec Dieu, c'est pas juste une forme de tolérance que Dieu nous tolère.
But it's that God is actively pursuing our highest good.
Mais c'est que Dieu est actif pour rechercher ce qu'il y a de mieux, le meilleur possible pour nous.
So we are not only not God's enemies, but we are actually now, as we looked at, legally his beloved children.
Et donc on n'est pas simplement plus son ennemi, mais on est devenu, comme on l'a vu, au sens même légal vis-à-vis de Dieu, ses enfants chéris.
So we have now a reference point and a foundation for statements like Jesus's, where he says, "Love your enemies."
Et ça nous donne un exemple et une base pour comprendre et pour appliquer ce que Jésus nous dit quand il nous dit d'aimer nos ennemis.
And we find that peace typically originates in our own belief and salvation through the gospel.
Et en général, la paix prend son origine dans notre propre compréhension de l'évangile, dans notre propre foi.
But that also we're instructed multiple times, and 1 Peter 3:11 is one of them, where we are instructed to seek peace.
Mais il y a aussi des fois, et on peut le voir dans
1 Peter 3:11.
Dans 1 Pierre 3:11, que la Bible nous exhorte à rechercher la paix activement.
So we see that our peace not only comes from believing the gospel, but our peace comes from actively pursuing the gospel in our lives, which is showing peace.
Et donc la paix vient de notre foi en Jésus, de notre relation avec Dieu et de la présence de l'Esprit dans nos vies, mais aussi d'une obéissance à cette exhortation et à cette demande que fait la Bible pour que nous recherchions la paix en vivant l'Évangile autour de nous.
But like most things, we're going to hit roadblocks where we just, man, it's just, you go head to head with people.
Mais comme pour beaucoup de choses, il y a des difficultés et ça va souvent arriver que nous soyons en conflit avec les gens.
But peace is regularly attributed to God as a God of peace.
On parle souvent de Dieu comme un Dieu de paix.
And it is called multiple times a gift from God and the gift of Jesus.
Et la paix est souvent décrite comme étant un don de la part de Dieu.
So anytime we come to those roadblocks, we simply ask our God, who has shown us the example of peace, to give us peace and the strength to show peace.
Et donc quand nous avons ces difficultés à avoir la paix ou à avoir la paix avec les gens autour de nous, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à avoir la paix dans ces relations, dans nos vies.
And so then, like Jesus, who was called the Prince of Peace, we can also show peace towards everyone and every situation in our life.
Et comme pour Jésus, qu'on appelle le Prince de Paix, on va pouvoir, Dieu va nous aider à montrer et à appliquer cette paix dans nos relations et dans la vie de tous les jours.
Next one is one of my least favorite fruits of the Spirit.
Le prochain, c'est un des fruits que Jordan préfère le moins.
It's right up there with self-control.
C'est au même niveau que le contrôle de soi.
It's long-suffering.
C'est la patience.
And this word comes from two words.
C'est un mot qui a son origine avec deux mots.
One word means long.
Il y a un mot qui indique une durée, une longueur.
And the other word is a similar word translated jealousies earlier in the works of the flesh.
Et c'est un mot qui, l'autre mot ressemble au mot utilisé dans les œuvres de la chair pour décrire la jalousie, les jalousies.
But we see here that it takes on a godly component.
Mais ici, il y a une caractéristique divine.
And that is the ability to endure through intense situations.
Et c'est l'idée de pouvoir endurer certaines situations difficiles.
This is one of God's self-proclaimed attributes.
C'est un des attributs que Dieu se donne à lui-même, se déclare lui-même comme étant.
In Exodus chapter 34,
dans Exode chapitre 34,
God says verbally to Moses that he is a merciful God, gracious and long-suffering.
Dieu dit à Moïse qu'il est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère.
So, we see that again this attribute that the Spirit will bear in our lives comes not from within us necessarily, but from without, that the Holy Spirit through his own attributes produces this in us.
Et donc encore une fois, ce sont des choses que l'Esprit Saint va produire dans nos vies, c'est des caractéristiques propres à l'Esprit Saint, à Dieu, et par sa présence dans nos vies, il va les produire en nous.
And so we have verses like we've already referenced in Hebrews where it says for the joy set before Jesus he endured the cross.
Et on a des phrases, par exemple dans Hébreux, quand on parlait de Jésus et de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix.
So we see here that this kind of long suffering is not based on mere bearing.
Et donc cette patience, cette capacité à endurer, c'est pas simplement le fait de pouvoir porter quelque chose.
But that it's rooted closely with hope.
Mais qu'il y a une composante ou une idée très importante d'espoir.
And we see, we've maybe seen people that have gone through situations.
Peut-être qu'on a vu des gens qui ont vécu certaines situations difficiles.
They've endured hard circumstances.
Ils ont survécu à des circonstances ou des choses très difficiles.
And we see that this fruit of the Spirit, in the midst of those things, understands the promises of God.
Et donc ce fruit, c'est de pouvoir vivre et endurer ces situations en comprenant les promesses de Dieu.
And so therefore can proceed through hard times, hopefully, knowing that God will produce His promise.
Et cette connaissance et cette espérance placée en Dieu et en ses promesses permet et aide à endurer les situations.
This fruit of the Spirit also comes out really closely in your dealings with people.
Et ce fruit de l'Esprit se voit aussi dans vos interactions avec les gens.
Because honestly, some people just drive us nuts.
Parce qu'il y a des gens qui nous rendent vraiment dingues, qui nous.
And we have to endure them.
Et il faut endurer des fois.
But through the fruit of the Spirit, we can be hopeful for what God has for their life.
Mais par le fruit de l'Esprit dans nos vies, on peut avoir de l'espoir pour ce que Dieu va produire et changer dans leur vie.
And so we see that this fruit of the Spirit, long suffering, doesn't make yourself and your feelings the criteria of whether or not you will carry on.
Donc on voit que avec ce fruit de l'esprit, c'est pas une question de nos sentiments ou de notre compréhension ou de nous-mêmes, mais c'est notre
doesn't make yourself and your feelings the criteria of carrying on.
C'est pas nous-mêmes, notre compréhension des choses ou nos sentiments qui vont nous donner la capacité à endurer.
And so God produces this long suffering, which is not horrible, but it actually is rather pleasant.
Et donc c'est Dieu par son esprit qui produit cette patience, cette endurance dans nos vies et qui est finalement agréable.
Then we come to kindness.
Ensuite, on arrive à la bonté.
And there's a couple different ways I want to go with the definition of this word.
Et il y a plusieurs idées ou choses dans la définition de ce mot.
And the first way I want to go, and the first definition I want to give is kindness is treating people with the same attitude that God treated them.
Et la bonté ou la gentillesse, c'est de traiter les gens de la même manière que Dieu les a traités.
But that also, another definition and another way that this can be used is simply by the word being useful.
Mais une autre manière dont on pourrait définir ce mot ici, c'est simplement l'idée d'être utile.
And so we see that this attitude is not just a mere pleasantness about you.
Et donc ici cette bonté ou cette gentillesse, c'est pas simplement une genre de côté agréable de votre personne.
You know, they've said that politeness is the only acceptable form of hypocrisy.
Il y a une citation qui dit que la politesse c'est la seule forme acceptable d'hypocrisie.
But that kindness birthed in you from God not only is pleasant and polite towards people, but that you show them, you're actively showing them God's love in their life by being useful.
Et donc la bonté ou la gentillesse dont il est question ici, c'est pas simplement le fait d'être agréable ou gentil ou poli avec les gens, mais c'est d'être actif dans son amour et de montrer son attention et l'amour de Dieu envers les gens.
And so we see that God throughout the Psalms is regularly called kind.
Et on voit par exemple dans les psaumes de manière continue que Dieu est décrit comme gentil ou bon.
In fact, in the Septuagint, the psalm where it says, "Give thanks to the Lord, for He is good; His love endures forever." You guys might have heard the repeated phrase of that throughout the Psalms.
Il y a dans les psaumes, louez l'Éternel car il est bon.
That word "good" is actually translated in the Greek Old Testament "kind."
Et cette idée de bon, ce mot, est traduit dans l'Ancien Testament en grec par gentil ou bon.
And so we see that goodness is that God treats us with gentleness and with care, but it's not passive, it's very active, that He is useful and that He comes alongside us and helps us in times of need.
Et donc cette bonté, cette gentillesse dont Dieu fait preuve envers nous, c'est pas simplement quelque chose de passif, mais c'est quelque chose de vraiment actif, où il se montre utile à notre égard, où il se montre plein d'attention pour être gentil et bon envers nous.
And what I find that this fruit of the Spirit is so necessary within the church.
Et c'est un fruit qui est tellement important dans la vie de l'Église.
Because we're always, as leaders and as pastors, we're always looking for people who are useful.
Parce que pour les dirigeants, pour les gens qui sont dans le ministère, ils sont toujours en train de chercher des gens qui sont utiles.
Because there's plenty of nice people in the church. We can agree on that, right?
On est tous d'accord qu'il y a plein de gens qui sont polis, qui sont gentils dans l'église, non?
But if that pleasantness, if that goodness, if that kindness leads to fruitful labor, I mean, you're a gold mine.
Mais si cette gentillesse, si cette bonté dans vos vies se traduit aussi par des fruits, par un travail, par une volonté d'être utile, vous êtes une mine d'or pour l'Église.
And God wants to put us to work, but in the work, He wants to make us kind.
Dieu veut nous utiliser, veut que nous travaillions pour Lui, mais il veut aussi nous rendre gentils et bons dans son œuvre.
Goodness.
La bonté.
Goodness is simply defined as the opportunity in justice to be generous and merciful.
Pardon, la bienveillance. C'est de montrer de la grâce.
The opportunity in justice to be generous and merciful.
D'utiliser l'opportunité avec de la justice, de montrer de la générosité et de la grâce.
And furthermore, it's the attitude in generosity to be joyful and kind.
Et c'est la bienveillance, c'est même dans la générosité d'être gentil et bon envers les gens pour lesquels on va montrer de la générosité.
This word is regularly used in the New Testament.
Ce mot de bienveillance est aussi utilisé très fréquemment dans le Nouveau Testament.
You're going to come across the phrase, in fact, some Christian organizations might even name themselves after this word, agathos.
C'est un mot que vous avez peut-être entendu dans les milieux chrétiens. Il y a certains ministères chrétiens qui prennent ce mot agathos pour se nommer.
And it speaks of the fact that within the realm of our life, we have certain control over circumstances, perhaps over people.
Et il y a, par rapport à cette idée de bienveillance, l'idée que dans une certaine mesure, dans nos circonstances extérieures, matérielles, nous avons un certain contrôle dans nos vies.
And that in those circumstances and in our behavior and in those dealings, we're not only right, but we're also good.
Et donc vis-à-vis de ces choses, ces circonstances où nous pouvons contrôler un peu ces choses dans nos vies, nous ne sommes pas seulement justes dans ce que nous faisons, mais aussi bons.
Because we all know plenty of people who are jerks that are right all the time.
Nous pouvons peut-être connaître plein de gens qui sont tout le temps justes ou qui sont tout le temps dans le vrai, mais qui sont des gens très désagréables. Ou...
Some of you guys might even be those people.
Et peut-être que pour certains d'entre nous, nous sommes ces gens-là.
But this is the greatest opportunity in the areas where we have power.
Mais c'est une des plus grandes opportunités que nous avons dans ces choses où nous avons notre mot à dire, où nous avons un certain contrôle.
We can show kindness.
Nous pouvons montrer de la gentillesse, de la bienveillance.
We can be merciful.
Nous pouvons faire preuve de grâce, de miséricorde.
And like God, we can be generous.
Et comme Dieu, nous pouvons faire preuve de générosité.
God had every right to destroy us in hell forever, and has every right to destroy us in hell forever.
Dieu avait tous les droits et toutes les raisons pour nous envoyer en enfer sans qu'il ait tort.
But instead of condemning us in hell forever, instead of being right, he was generous.
Mais au lieu d'être juste, de faire suivant la vérité, il a fait preuve de bonté.
He gave his only son for us, even though he had the right to destroy us.
Il a donné son fils unique alors qu'il avait le droit de nous détruire.
And in the midst of his generosity, it was done joyfully and kindly.
Et sa générosité a été faite avec de la joie et de la gentillesse.
And so each one of us will be placed in certain circumstances where we will have the power to be right.
Et pour chacun d'entre nous, nous aurons l'occasion, l'opportunité dans nos circonstances d'avoir raison.
But hopefully, like God, we can instead give generously of ourselves.
Mais la parole nous exhorte à, comme Dieu, faire preuve de bienveillance envers les gens.
We can be generous with our time,
d'être généreux avec notre temps,
even though that person has continually been late.
Même si cette personne est toujours en retard.
No, that's funny.
Je n'ai pas certain pourquoi c'est si marrant.
We'll have opportunities to be generous with every area of our life, specifically the ones that get us the most, that show who our God is our wallet and our time.
Nous aurons des occasions de montrer cette générosité dans bien des domaines de notre vie. Mais ceux qui souvent le montrent notre vraie nature et nos vraies intentions, ça va être notre portefeuille et notre temps.
Those are the things we control.
Ce sont les choses que nous contrôlons.
And those are the things when people abuse them that we cannot tolerate.
Et quand les gens abusent de ces choses-là, nous ne tolérons pas.
But hopefully, like God, we will learn to be generous.
Mais espérons que, comme Dieu, nous arrivions à être généreux.
Faithfulness.
La fidélité.
The best way to define this word is simply reliable.
La meilleure moyen de définir ce mot, c'est comme être quelqu'un... Quoi? quelqu'un sur lequel on peut compter.
Or loyal or trustworthy.
Quelqu'un qui est digne de confiance, qui est loyal.
This word is speaking of how we interact with those all around us and our attitude.
Ce mot parle aussi de notre interaction avec les gens autour de nous, de notre attitude.
And that we can be considered a foundation, a reliable pillar for others to lean on.
Et que nous puissions être des gens solides, comme des piliers sur lesquels les autres gens peuvent s'appuyer.
But also this carries with it the characteristic of trusting others.
Mais avec la fidélité vient aussi l'idée de faire confiance aux autres.
That we are not pessimistic or suspicious or cynical, but we believe and we hope the best. For others.
Que nous ne soyons pas pessimistes ou cyniques ou que nous manquions de confiance envers les autres, mais que nous soyons pleins d'espoir et que nous croyons toujours le meilleur vis-à-vis des autres.
Faithfulness is a key component, obviously, in the Christian belief system.
C'est quelque chose d'essentiel dans le système de croyance chrétien.
Faithfulness is also a key component in the Christian behavior system.
Mais c'est aussi un élément essentiel dans le système de comportement du chrétien.
And just like Jesus, who showed himself faithful by dying, by living after God, by rising from the dead, so that we could preach the faithful message, so that it could show us that we serve a faithful God. Who will not only start something but will finish it.
Et que nous puissions faire preuve de fidélité comme Jésus qui a été fidèle pour venir sur la terre pour vivre selon les préceptes de Dieu sur terre, qu'il a été à la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et que nous pouvons nous appuyer sur son œuvre pour annoncer son évangile ensuite.
We see that God wants to produce that same faith in others and that same faithfulness in our lives.
Et on voit que Dieu veut produire cette même foi dans les gens autour de nous et cette même fidélité dans nos vies.
Think of the irony. If we preached faith in a faithful God, but we ourselves are not faithful people.
Pensez à l'ironie de la situation si nous prêchons le salut par la foi en Dieu, un Dieu qui est fidèle, qui est digne de confiance, et que nous ne soyons pas dignes de confiance de la part des autres.
Or we preach faith in a loving God, but we ourselves don't hope the best for people.
Où on enseigne que Dieu est plein d'amour et puis ensuite que nous ne soyons pas que nous ne fassions pas confiance, que nous n'ayons pas d'espoir pour les gens autour de nous.
Gentleness.
La gentillesse.
Gentleness is the perfect balance between excessive anger and lack of emotion.
La douceur ou la gentillesse, c'est l'équilibre parfait entre la colère excessive et le manque d'émotion ou de sentiment.
It's been illustrated by the use of a guard dog.
On a utilisé l'idée de chien de garde comme image pour ça.
That the guard dog is gentle and kind and friendly to its owners and to its friends.
Qu'un chien de garde peut être gentil ou bon et agréable pour ses propriétaires ou ses.
But towards an enemy, it's ferocious.
Alors qu'envers un ennemi, le chien de garde va être vorace, va être féroce.
This word is actually used quite a bit in different ways. One of them is it's used to describe a soothing ointment on a wound.
C'est un mot qui est aussi utilisé pour parler d'un, d'un traitement, d'un baume qui va être utilisé pour une plaie, pour apaiser une plaie ou une douleur à la peau.
It's also used to describe a gentle dealing when you could be harsh.
C'est aussi utilisé pour parler d'une résolution douce ou gentille avec quelqu'un alors que vous pourriez être dur et sévère avec la personne.
Or it's also used to describe a reaction when one was faced with unpleasant circumstances.
Et ça peut aussi être utilisé pour décrire une réaction vis-à-vis d'une situation qui n'est pas plaisante.
So we see that this word gentleness is not weak or fragile.
Cette idée de douceur, ça n'est pas une idée de fragilité ou de faiblesse.
But it fully has the power to do things, but it chooses instead to act gently instead of harshly.
Il y a toute la puissance et la capacité derrière pour agir, mais c'est un contrôle et une décision d'agir avec douceur.
That it controls both your excessive temper. If you see something that is wrong and you react ferociously, gentleness will temper that so that you can be effective instead of harsh.
Ça peut être par exemple quand vous voyez quelque chose de mauvais ou de pas bon et vous réagissez fortement par rapport à ça, la douceur va tempérer cette réaction pour que vous puissiez être efficace ou avoir vraiment un effet dans la situation.
Or it excites our indifference or our lack of emotion to step into a situation and to bring gentle loving care.
Ou ça peut changer, nous pousser hors de notre indifférence, susciter des émotions pour agir, pour intervenir avec douceur vis-à-vis des gens.
Again, we see this perfectly displayed in Jesus Christ.
Et encore une fois, on voit cette idée de douceur parfaitement montrée par Jésus Christ.
Who called himself meek.
Qui se décrivait comme doux.
And Jesus shows us not excessive violence.
Jésus ne fait pas jamais preuve de violence excessive.
Towards unrighteousness.
Contre des injustices.
Nor does he show us indifference towards sin.
Mais en même temps, il ne montre pas de l'indifférence face au péché.
But he comes alongside us and provides the soothing, gentle ointment of his sacrifice.
Mais il vient avec douceur à côté de nous et applique ce baume, cette douceur de son sacrifice à la croix et de son amour pour nous.
All right, the last one, self-control.
Le dernier, la maîtrise de soi.
Self-control can be simply defined as the power to restrain.
La maîtrise de soi, ça peut simplement être défini comme la capacité de se contrôler.
But the power to restrain is not just defined in the power to restrain from doing things that are bad.
L'idée de se retenir, mais pas simplement de se retenir de faire des choses qui sont mauvaises.
It also shows that it gives us the power to control our body to do good.
Ça montre aussi l'idée de maîtrise de soi, de contrôle de soi pour faire le bien.
Sometimes it's a duty to restrain yourself.
Parfois, c'est votre devoir de vous retenir.
And sometimes it's a duty not to restrain yourself.
Et parfois, c'est votre devoir de ne pas vous retenir.
But both of those take self-control.
Mais pour ces deux choses, il y a besoin de maîtrise de soi.
And we see that it is not only over our body.
On voit que c'est pas simplement par rapport à nos corps.
And controlling the things that we do with our actions.
et le contrôle sur ce que nous faisons avec notre corps, nos actions.
But it's control of your mind.
C'est le contrôle de nos pensées.
Where you have the godly ability to discern and to see when things are from God or not from God.
Que vous avez la capacité de la part de Dieu de discerner quand les choses viennent de Dieu ou ne sont pas selon la volonté divine.
We see carefully that Jesus shows us this not only in his self-control not to sin.
On voit encore une fois ça dans la vie de Jésus, mais pas seulement dans sa capacité de ne pas commettre de péché.
But in the midst of temptation, he could control his thoughts to see that God had given him the answers.
Il avait la capacité, même lorsqu'il était tenté, de contrôler ses pensées et de voir les réponses que Dieu avait déjà fournies à ses tentations.
And that he possessed such control that even when engaging in righteous anger,
et il avait tellement le contrôle de lui-même que même lorsqu'il exprimait une colère divine juste,
he would control himself from being overwhelmed with his emotions.
Il contrôlait ses émotions pour pas qu'il le submerge.
And this fruit of the Spirit goes directly against a worldly worldview.
Et ce fruit de l'esprit est très contraire à l'esprit du monde, à la vision du monde que le monde a.
That we would restrain ourselves, that we would put boundaries around ourselves, that we would control ourselves.
Cette idée de nous contrôler, de mettre des barrières, de mettre des limites aux choses, de nous définir un cadre.
But I like to think of self-control or restriction as like an artist's canvas.
Jordan aime utiliser l'idée d'une toile d'un peintre pour parler de cadre ou de limite.
Every artist has edges on his canvas.
Tous les artistes ont des bords, des limites à leur toile.
And he limits his art to that area.
Et son art est limité à cet espace.
And it's been said that the smaller the canvas, the more difficult it is to produce art.
Et ça a été dit que quand plus la toile est petite, plus c'est difficile de produire de l'art dans cet espace.
If I was to paint something here on the wall,
si Jordan devait peindre quelque chose ici sur le mur,
and there was drips all over the ground,
et qu'il y avait des gouttes partout par terre,
you wouldn't think that's beautiful.
Vous ne penseriez pas que ce soit beau.
Unless that was part of my canvas.
À moins que ça fasse partie de sa toile.
You would think, what a mess.
Vous penseriez juste, c'est quoi ce quoi, ce bazar? Ce désordre.
So, putting restrictions and limits on yourself.
Donc l'idée de se limiter, d'avoir des restrictions.
Paul says at the end of verse 23 in Galatians chapter 5.
Paul dit à la fin du verset 23, chapitre 5 dans Galates.
He says, against such there is no law.
Il dit contre de telles attitudes il n'y a pas de loi.
He says that if we show these things, there is no governing body that will want to suppress this because these are good things.
Il dit si nous montrons ces choses, il n'y a aucune instance dirigeante ou gouvernante qui va être contre de telles choses parce que ce sont des choses bonnes.
And also, this again reiterates that this is not something that we do out of obligation, but that it is something that is done within us.
Et encore une fois, ça, il y a l'idée derrière que ça n'est pas quelque chose que nous faisons par obligation, mais c'est quelque chose qui est produit en nous.
Because verse 24 says, those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires.
Verset 24 dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs.
And we see yet again that the fruit of the Spirit goes against the natural, selfish, self-promoting agenda that we all secretly or unconsciously feel within us.
Et donc, encore une fois, les fruits de l'esprit vont à l'encontre de notre chair, de nos ambitions personnelles, de notre égoïsme, des choses, de notre agenda personnel, avec nos ambitions, notre désir de satisfaire notre chair.
And so we see here that this is not, Paul's not speaking about total death.
Ici, verset 24, Paul parle, ne parle pas d'une mort totale.
But he's talking about how his old, sinful, unregenerate self was put to death, therefore making it powerless to control us at the cross.
Mais il est en train de dire que sa nature pécheresse, sa chair, a été rendue sans puissance, sans contrôle sur sa vie, en la mettant à la croix.
And so he concludes in verse 25, where he says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Et verset 25, il conclut, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.
And again, we see the word walk, which is now a different word than the word used in verse 16 for walk.
Et le mot ici, conduire ou marcher par l'Esprit.
But this word for walk means to walk straight, in contrast to swerving off course.
C'est un mot pour parler de marcher qui est différent de celui que nous avions vu la mardi soir dans le début du chapitre. Ici, il y a une idée de marcher droit sans dévier de sa course.
So whereas before Paul was encouraging us to get up off of our rear, now he is saying to walk passionately in a certain direction.
L'autre mot qu'on avait vu pour parler de marcher, Paul l'utilisait pour donner une idée du fait que nous ne devions pas être assis, mais en train d'être actifs et de marcher. Et ici, l'idée, ce n'est pas cette idée-là, mais c'est l'idée que nous devons marcher dans une direction donnée.
And we see that that direction is love.
Et on voit que cette direction, c'est l'amour.
Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness and self-control.
La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
So, these are the things that God wants to produce in us.
Ce sont les choses que Dieu veut produire en nous.
Not the things that we produce for God.
Ça ne sont pas les choses que nous produisions pour Dieu.
So if you ever come into a roadblock, you don't go to your own efforts, you go to the Holy Spirit and to God.
Et donc si vous rencontrez des difficultés et que vous ne voyez pas ces choses dans vos vies, vous n'essayez pas par vos œuvres de les produire en vous, mais vous demandez à Dieu d'agir en vous par son esprit.
Let's go ahead and take just a real short 15-minute break.